Vous écoutez On lit pour vous.
Le cœur, un texte de Marie-France Bazot, paru le 23 janvier 2024 dans la presse. Dernièrement, dans la boutique d'une enseigne internationale de prêt-à-porter du centre-ville de Montréal, j'ai interagi avec deux vendeuses anglophones. Lorsque la troisième a baragouiné en français, j'ai eu comme une émotion. On parle donc encore français, rue Sainte-Catherine. Mais je me méfie des impressions, je veux des faits. Heureusement, cette impression d'être étrangère chez soi, de se sentir minoritaire, devrait bientôt finir. La mairesse Plante, dans son plan « Agir pour l'avenir du centre-ville de Montréal », misera sur le quartier latin et ses institutions, l'UQAM et BANQ. Pour mettre de l'avant son identité, elle l'a baptisé le quartier de la francophonie. L'affaire a immédiatement soulevé un tollé. Mais quelle est cette mentalité folklorico-assiégée? Y a-t-il un quartier espagnol à Madrid? Une petite Italie à Rome? Ceux qui prophétisaient une louisianisation du français avaient-ils raison? Le quartier de la francophonie sera-t-il notre vieux carré, comme à la Nouvelle-Orléans? Comment décrire l'attitude de Valérie Plante? Est-ce une histoire de mentalité de colonisé, du mépris auto-infligé, de l'aveuglement jovialiste? J'hésite entre la maladresse pathétique et la déconnexion. Car le français, au fil des recensements, perd de l'importance dans l'île et jusque dans les banlieues. Au recensement de 2021, 48,3% des Montréalais et 77,3% des répondants en banlieue déclaraient parler français à la maison, des chiffres en baisse constante. Parce que les familles francophones s'établissent désormais en deuxième ou en troisième couronne, parce que le Québec et au premier chef Montréal, reçoit une immigration massive qui parle peu le français et qui peinera de plus en plus à le faire, entourée de non-francophones de plus en plus nombreux. Les nouveaux arrivants francophones ne font pas le poids. Nous vivons un repli territorial. Les francos abandonnent Montréal comme lieu de vie. Mais qu'à cela ne tienne, nous reviendrons nostalgique, visiter le village francophone de Séraphin, ben chaud, le samedi soir. Il va bien falloir un jour libérer le débat sur la survie du français à Montréal, de sa charge émotive, et le nourrir de chiffres et de faits. L'immigration n'est ni un cadeau, ni une menace, ni un ressenti, elle est surtout une donnée. Le Québec a accueilli 46% des demandeurs d'asile au Canada en 2023 et Montréal agit comme un aimant, comme presque toutes les grandes villes. Mais là où Montréal est différent, c'est qu'il est la métropole d'une nation francophone noyée dans un continent anglophone. Cela mérite d'être pris en considération. Sans émotion, juste parce que les particularités culturelles importent, elles enrichissent le monde. Certes, la francisation s'opère en partie à la deuxième génération d'immigrants grâce à l'école. Mais la loi 101 s'arrête aux portes du cégep. Et la première génération, très nombreuse, est laissée trop facilement à elle-même. Et à Montréal, on a ces temps-ci de moins en moins de raisons de se donner la peine de socialiser en français. Il faut aussi parler de notre démission tranquille à nous, les francophones, nous qui parlons et écrivons notre langue de plus en plus mal, nous qui sommes biberonnés à la culture anglophone, qui ignorons ou dénigrons notre propre culture. Nous qui démissionnons progressivement par paresse, conformisme ou même par snobisme. Regardons-nous aller un peu avant de blâmer unilatéralement les nouveaux venus. Le cœur de Montréal ne bat plus en français. Il ne bat plus pour le français. Alors que l'idéologie trudeauiste veut que toutes les cultures soient également chéries et célébrées, le cœur de la métropole, celui qui lui donne sa saveur unique, s'éteint à petit feu, sous un mélange dangereux. Celui de notre indifférence, d'intentions médisantes de ceux qui ne croient pas au recul du français, et d'initiatives carnavalesques avec sculptures d'animaux joyeux et, qui sait, des trompettes louisianaises, histoire de bien marquer son enterrement public. Le fossé se creuse davantage chaque jour entre Montréal et le reste du Québec. Il a toujours existé. Les valeurs, les modes de vie sont différents entre métropoles et régions partout dans le monde. Mais la question de la part du français qui s'amenuise caractérise et teinte le fossé qui nous divise. Je suis très souvent en désaccord avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Mais il a cette fois visé juste en parlant de décrochage pour nommer ce qui se passait entre Montréal et le reste du Québec. Et le Québec, ostracisant Montréal l'impur, s'empêche de comprendre que la métropole est une vitrine de ce qu'il pourrait devenir. Le recul du français a pour vocation de ne pas demeurer contenu à Montréal à long terme. Nous faisons face à un enjeu de taille. Je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais il faut cesser de se fier aux ressentis et mesurer les choses, entreprendre des actions raisonnées. Créer un quartier de la francophonie n'en fait pas partie. C'est comme si on avait fait un bond de 30 ans dans l'avenir et que le français relevait déjà du folklore. Et tout le monde sait qu'il faut se méfier des prophéties auto-réalisatrices. C'était Le Cœur, un texte de Marie-France Bazot, paru le 23 janvier 2024 dans La Presse.
La STM augmente la surveillance dans le métro avec ses ambassadeurs de sûreté. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 25 janvier 2024 dans Le Devoir. Le nombre d'interventions des constables spéciaux de la Société de transport de Montréal, STM, dans le métro a connu une importante hausse l'an dernier. Dans l'espoir de rassurer les usagers du réseau souterrain préoccupés par leur sécurité, la STM a commencé le déploiement d'ambassadeurs de sûreté. En 2023, la Société de transport a recensé 47 000 appels et interventions de la part de ses constables spéciaux contre 42 000 l'année précédente, soit une hausse de près de 12 %. Et c'est presque deux fois plus qu'avant la pandémie de COVID-19, puisqu'en 2017 et en 2018, la STM enregistrait autour de 25 000 interventions dans le métro. C'est dans cette perspective que la STM a mis en place un programme d'ambassadeurs de sécurité inspiré du modèle adopté à Los Angeles, San Francisco et Philadelphie. Il s'agit d'employés dont le mandat est d'accompagner la clientèle dans ses déplacements et de faire des signalements auprès des constables spéciaux qui ont le statut d'agent de la paix ou des policiers du service de police de la ville de Montréal lorsque des situations potentiellement dangereuses surviennent. On est dans une nouvelle réalité qui fait en sorte qu'on a besoin de plus de spécialités dans le réseau du métro, autant des spécialités orientées du côté social que des spécialités orientées du côté sûreté. Les ambassadeurs sont un outil de plus pour accompagner les clients et signaler des incidents, a expliqué jeudi Jocelyn Latulippe, directeur sûreté et sécurité incendie de la STM. les ambassadeurs, qui sont au nombre de 6 à l'heure actuelle, ont reçu une formation de 80 heures et ils patrouillent dans l'ensemble des stations de métro. Leur uniforme bleu et noir est facilement reconnaissable pour la clientèle, estime la STM. Ce programme, implanté au coût de 600 000 $, vient compléter l'offre de services comprenant les constables spéciaux, les policiers, l'équipe métro d'intervention et de concertation et l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale. La société de transport, qui a embauché 16 constables spéciaux de plus en décembre, souhaite recruter 20 ambassadeurs en 2024. Le président du conseil d'administration de la STM, Eric Allen Caldwell, estime que la présence physique d'employés supplémentaires, ce qui donne une plus grande visibilité sur le terrain, est susceptible d'apaiser les inquiétudes des usagers. Il y a 1 million de déplacements par jour dans notre réseau et plus de 500 000 dans le métro. Le métro est somme toute sécuritaire, avance-t-il. Ceci dit, il y a des enjeux et des situations. Il y a des personnes, on le comprend très bien, qui parfois ont peur de prendre le métro pour plein de raisons. C'est pour ça qu'on intervient à plusieurs niveaux. La partie n'est cependant pas gagnée. Ce n'est pas tant dans le métro qu'autour des stations que les usagers ressentent une certaine insécurité en raison de la présence d'itinérants et de personnes sous l'influence de substances, souligne Jean-Yves Quéry, croisé à la station Place des Arts. « Je ne me sens pas nécessairement en danger dans le métro. Je trouve que c'est pire sur la rue », dit-il avant de relater qu'il arrive fréquemment que des flâneurs et des itinérants bloquent l'entrée de l'atelier où il travaille. La police ne fait rien. De son côté, l'opposition à l'hôtel de ville déplore que l'administration de Valérie Plante ait réduit de 20% les effectifs policiers dans le réseau de la STM. « Pour moi, c'est une déconnexion totale de ce qu'il fallait faire », souligne le conseiller d'Ensemble Montréal, Abdelhak Sari, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Selon lui, les mesures mises en place par la ville et la STM, dont l'embauche d'ambassadeurs, sont du colmatage, compte tenu de l'ampleur de l'inquiétude des usagers du métro. Les ambassadeurs ne sont ni formés ni équipés pour intervenir comme les policiers peuvent l'être, et les policiers ne sont plus présents dans le métro, sauf lorsqu'ils sont appelés à intervenir. C'était « La STM augmente la surveillance dans le métro avec ses ambassadeurs de sûreté », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 25 janvier 2024 dans Le Devoir.
Vers une cure de jouvence musculaire. Un texte de Marine Corniou-Lecourt, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Une équipe transuniversitaire a découvert une avenue prometteuse pour épurer et rajeunir les muscles des personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1. Une maladie génétique fréquente au Québec. S'il y a une communauté qui comprend mieux que nul autre l'importance d'unir ses forces, c'est bien celle des maladies rares. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un modèle en la matière. La région est mondialement connue pour son taux élevé d'affections génétiques, mais elle constitue surtout un laboratoire unique où médecins, scientifiques et malades collaborent étroitement. Et la stratégie paye. Les travaux d'Élise Duchesne et de Nicolas Dumont, publiés en juillet 2023 dans Nature Communication, l'illustrent bien. Ils ont permis de dévoiler un nouveau mécanisme en cause dans la dystrophie myotonique de type 1, DM1, de trouver un marqueur sanguin corrélé à la gravité des symptômes et de repérer dans la foulée un médicament potentiel. C'est un projet qui a roulé vite, se réjouit Nicolas Dumont, professeur à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. La DM1 est une maladie neuromusculaire causée par une anomalie génétique bien connue. Elle affecte une personne sur 500 au Saguenay, contre une sur 8000 ailleurs sur la planète. Pouvant se manifester à n'importe quel âge, elle se traduit par une raideur et une fatigue des muscles d'intensité variable et par toute une panoplie de symptômes cognitifs, digestifs, cardiaques. La DM1 est très difficile à étudier en raison de son hétérogénéité. Mais ici, nous avons 450 patients, tous suivis à la même clinique, ce qui est exceptionnel, explique Élise Duchesne, professeure en physiothérapie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette cohorte est une mine d'or avec sa foule de données cliniques et génétiques, d'échantillons sanguins et musculaires. Le but des deux scientifiques et de leurs équipes respectives était de brosser le portrait des gènes exprimés dans les cellules souches musculaires capables de régénérer les muscles grâce à des techniques permettant d'analyser les cellules une à une. Résultat? En cas de DM1, les cellules souches affichent plutôt un profil délétère. De nombreuses cellules montrent une signature de sénescence, explique Nicolas Dumont. Autrement dit, elles vieillissent avant l'heure, envoyant des signaux toxiques pour le muscle. Des facteurs inflammatoires, notamment l'interleukine 6, sont fortement exprimés. Or, cette molécule avait déjà été mesurée par le passé dans les échantillons sanguins de la cohorte. Nous avons donc pu voir si ça avait une importance clinique, ajoute celui qui est aussi chercheur au CHU Sainte-Justine. La réponse est oui. Plus l'interleukine 6 est élevée dans le sang, plus les symptômes sont graves, ce qui en fait un marqueur de choix pour évaluer le degré d'atteinte musculaire. Ce n'est pas tout. La découverte de ce mécanisme permet d'attaquer la maladie par une autre voie, souligne Élise Duchesne. L'équipe a testé plusieurs médicaments qui éliminent les cellules sénescentes et a retenu le plus prometteur. Nous prévoyons étudier son efficacité sur des modèles animaux et préciser le lien causal entre la sénescence des cellules souches et la pathologie, ajoute M. Dumont, en reconnaissant que la route est encore longue. Mais, encore une fois, l'union fait la force. Nous avons la chance de travailler avec cette cohorte très impliquée dans la recherche et nous voulons aussi fédérer les meilleurs groupes scientifiques autour de nous. La culture dans la recherche sur les maladies rares est basée sur le partage. C'était « Vers une cure de jouvence musculaire », un texte de Marine Cornu-Lecourt paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science.
Des humains auraient été attirés en Amérique par des mammouths il y a 14 000 ans. Un texte de Mathieu Paquette de La Presse canadienne paru le 22 janvier 2024 dans La Presse. C'est peut-être en suivant la trace de mammouths que certains humains se sont installés pour la première fois sur ce qui est aujourd'hui l'Alaska, il y a près de 14 000 ans, selon une étude à laquelle a participé un professeur de l'Université d'Ottawa. Depuis 4 ans maintenant,
Le professeur agrégé au département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université d'Ottawa, Clément Bataille et plusieurs autres chercheurs tentent d'en apprendre plus sur les mammouths qui ont vécu il y a plusieurs milliers d'années en Alaska. C'est quand même des espèces fascinantes et majestueuses, donc c'est fascinant de les étudier, souligne M. Bataille en entrevue avec la presse canadienne. Après avoir plongé dans la vie d'un spécimen masculin, Kik, qui a vécu il y a 17 000 ans, voilà que les chercheurs se sont tournés vers Elma, une femelle dont la vie remonte à il y a environ 14 000 ans. Ce qui a attiré l'attention des chercheurs cette fois est que le fossile d'Elma a été retrouvé à l'endroit même où des humains auraient installé un campement à peu près à la même époque, ce qui pose l'hypothèse que ces humains ont été attirés en Amérique du Nord en suivant la trace des mammouths. On sait que les humains arrivent en Alaska il y a environ 13 500 ans. Le premier site où il y a des preuves complètement irréfutables que les humains sont présents, c'est à Swan Point, et c'est sur ce site-là qu'on trouve une défense de cette femelle, Elma, précise M. Bataille. Fossile près d'un campement. Ce qui est assez intéressant sur la façon dont les humains arrivent en Alaska à ce moment-là, c'est que tous leurs villages et peuplements sont à des endroits où il y a beaucoup de mammouths, poursuit-il. Ce sont des zones à haute fréquentation de mammouths, et donc notre hypothèse, c'est potentiellement que les humains auraient été attirés en passant de l'Asie à l'Amérique du Nord par le pont de terre du Bering, qui était émergé à ce moment-là par toute cette grande quantité de mammouths qui étaient présentes en Amérique du Nord, et particulièrement dans cette zone où il y en avait plus qu'ailleurs. On sait que les humains chassaient le mammouth, puisqu'ils le faisaient déjà en Europe et en Eurasie. Sans pouvoir le confirmer, les chercheurs avancent aussi l'hypothèse qu'Elma a été tuée par des chasseurs-cueilleurs. D'abord, son fossile a été retrouvé là où se trouvait aussi un campement. Ensuite, elle était en bonne santé lorsqu'elle est morte à l'âge de 20 ans, ce qui est quand même très jeune pour un mammouth, précise M. Bataille. Puis, elle a été trouvée près des fossiles de deux autres jeunes mammouths, dont un bébé, qui faisait partie du même troupeau. Donc, ça fait quand même trois coïncidences qui sont assez fortes, qui nous disent que très potentiellement, cette femelle et ses deux jeunes mammouths ont été chassés et ramenés au camp, conclut M. Bataille. Leur recherche sur Elma a été publiée dans la revue Science Advances. C'était « Des humains auraient été attirés en Amérique par des mammouths il y a 14 000 ans », un texte de Mathieu Paquette de la Presse canadienne, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse.
Les médicaments dans le fleuve sont un problème chronique. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 janvier 2024 dans La Presse. Les concentrations de produits pharmaceutiques dans le fleuve Saint-Laurent dépassent parfois des seuils où des effets toxiques sur la faune et la flore sont observables, selon une nouvelle étude montréalaise. Les rivières qui se jettent dans le fleuve ont le même problème. D'autres études ont montré qu'il y a des produits pharmaceutiques dans les cours d'eau, y compris au Québec, mais nous avons des données sur 5 ans qui prouvent que c'est une situation chronique, pas un problème ponctuel, explique Sébastien Sauvé, chimiste à l'Université de Montréal et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Science of the Total Environment. La seule norme canadienne visant un produit pharmaceutique est cependant respectée. Il s'agit de la carbamazépine, un anticonvulsivant. Mais pour beaucoup d'autres produits pharmaceutiques, il y a des études de toxicité dans la littérature scientifique, dit M. Sauvé. Nous avons calculé un quotient de risque à partir de ces études. Des concentrations élevées de caféine ont aussi été enregistrées. Une proportion importante des échantillons des cours d'eau dépasse ce quotient de risque pour l'ibuprofène, 28 % des échantillons, et l'anti-inflammatoire diclofénac, 59 % des échantillons. L'unité d'ozonation prévue pour l'usine de traitement des eaux usées de Montréal en 2028 devrait éliminer les molécules pharmaceutiques. Mais dans certaines conditions, une unité d'ozonation peut créer des sous-produits de ces molécules pharmaceutiques qui sont encore plus toxiques, selon M. Sauvé. S'il y a beaucoup de débit, par exemple, lors de fortes pluies, il se peut que le traitement dans l'unité d'ozonation ne dure pas assez longtemps pour éliminer ces sous-produits. Il faudrait alors interrompre l'ozonation un certain temps ou alors créer des bassins de rétention en amont de l'usine. Organismes en contact. Des échantillonnages ont été faits en aval et en amont de l'endroit où se déversent les effluents de l'usine de traitement des eaux usées de Montréal. En amont, les concentrations de produits pharmaceutiques augmentent lentement à cause des effluents des usines de traitement des eaux des villes de banlieue. Puis, elles ont un pic face à l'endroit où l'effluent montréalais est relâché vers l'est de l'île. On voit l'endroit où l'effluent de l'usine de traitement remonte à la surface, explique Marc-Antoine Vaudreuil, étudiant au doctorat et co-auteur de l'étude. C'est visible et ça sent. Les effluents sont visibles à la surface sur plusieurs kilomètres et les produits pharmaceutiques sont mesurables sur 70 kilomètres jusqu'au lac Saint-Pierre. Un pic plus loin est perceptible à Québec et des concentrations de molécules pharmaceutiques sont mesurables jusqu'à l'endroit où l'influence de l'eau salée se fait sentir. Avec le sel, la matière organique précipite très rapidement, dit M. Sauvé. La prochaine étape est de mesurer les effets de ces produits pharmaceutiques sur les organismes du fleuve. Il n'y a pas beaucoup d'accumulation de ces molécules dans les sédiments à cause du débit important du fleuve. Mais les organismes sont quand même en contact avec ces produits pharmaceutiques dans l'eau, fait valoir M. Sauvé. C'était « Les médicaments dans le fleuve sont un problème chronique », un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 janvier 2024 dans la presse.